À 1h05, c'est la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet.
Et nous accueillons Emmanuel Davydenkov et Marilyn Baumard. Emmanuel Davydenkov est directeur de la rédaction de L'Étudiant et vous publiez le tsunami numérique chez Stock, sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Marilyn Baumard est spécialiste de l'éducation au monde. Bonjour.
Bonjour.
Marilyn Baumard a lu le livre d'Emmanuel Davydenkov dont il sera question dans quelques instants. Mais nous avons envie, Antoine et moi, de profiter de votre présence à tous les deux en ce jour de discours de politique générale du nouveau Premier ministre pour vous poser à l'un comme à l'autre des questions à notre tour de politique générale mais en matière d'éducation puisque si l'on écoute le Président de la République, les nouvelles priorités données au Premier ministre et à son nouveau gouvernement, parmi ces nouvelles priorités compte la première qui est l'éducation et la formation de la jeunesse. On s'attend donc cet après-midi à ce qu'il soit question d'une façon ou d'une autre, soit des rythmes scolaires, on poursuit, on arrête, soit de la refondation de l'école qu'avait entamée le ministre précédent de l'éducation, Vincent Peillon, et que doit reprendre Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre de ce discours de cet après-midi, Emmanuel Davydenkov? J'attends le droit de dire rien. Hein,
j'attends de pouvoir.
J'espère que vous allez attendre quelque chose.
Non, moi j'attends de pouvoir le commenter. Je suis journaliste. on peut analyser le contexte. Simplement, la marge est extrêmement étroite sur les rythmes scolaires parce que la réforme est quasiment en voie d'être appliquée partout. En même temps, il y a des points de blocage extrêmement puissants à certains endroits, des nœuds. Mais enfin, en tout état de cause, ils peuvent pas faire marche arrière sur cette réforme-là. Enfin, en tout cas, ce serait une défaite absolument considérable, me semble-t-il, et un message terrible qui serait adressé à tous ceux qui se sont engagés dans cette direction-là. La marge est relativement étroite sur la loi de refondation. Elle vient d'être votée, ils ne vont pas la mettre à la poubelle. En revanche, il y a une certaine marge sur la mise en œuvre de cette loi, parce que c'est une loi de bonnes intentions. Maintenant, il faut la mettre en œuvre, il faut prendre des décrets, il faut affecter des moyens. Donc là, je pense qu'il peut se dire un certain nombre de choses, y compris sur le thème sur lequel on viendra dans quelques instants, qui est le numérique, puisque ça peut être une façon d'incarner, d'interpréter la loi. Au fond, la marge, de mon point de vue, elle est où? D'abord, elle est dans le style. Et je pense que ce n'est pas rien dans le monde dans lequel on vit, la façon dont Benoît Hamon va s'emparer de son nouveau costume de ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas spécialement attendu là-dessus. Il a en même temps une culture militante bien connue. Il ne faut pas oublier non plus qu'il sera ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de l'enseignement supérieur. Donc je pense qu'il est également attendu et de la recherche voilà, sur les universités et par les étudiants. Ceci dit, sur le fond, il n'y a pas eu avant la présidentielle de véritable aggiornamento de la gauche de gouvernement sur ce qu'elle voulait pour l'éducation. Il en a résulté un programme qui était assez flou, un programme d'intention, là encore, de François Hollande. Et on ne peut pas dire que les municipales aient donné un nouveau mandat électoral au gouvernement pour changer les choses ou pour mettre un contenu qui n'existait pas. Voilà. Peut-être le dernier point, mais ça c'est de la politique fiction totale. Je pense que la gauche s'était pieds et poings liés quand François Hollande avait lâché 60 000 créations de postes pendant la campagne des primaires, parce que quand même, donner les postes avant même de faire la négociation, c'est un petit peu compliqué. Et on l'a vérifié pendant 2 ans, où les syndicats sont arrivés en disant « Qu'est-ce que vous donnez ?»« Bon, vous êtes déjà donné. » »« Ben non, ça ne marche pas comme ça, monsieur le ministre. » Alors, ils étaient moyennement coincés. Donc là, peut-être que la menace de ne pas créer de les 60 000 va recréer paradoxalement une petite marge de négociation. Vous voyez ce que je veux dire? Côté, ben, finalement,
mais parce qu'on parle de raboter, c'est...
Voilà, on va vous en raboter 10 000, ah ben non, pas 10 000, 5 000. Voilà, peut-être que finalement, ça peut redonner ce qui a manqué, à mon sens, depuis le début, à Vincent Peillon vis-à-vis des syndicats, et notamment vis-à-vis du syndicat majoritaire, c'est-à-dire des billes, quelque chose pour négocier, parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre pays.
Marilyn Baumard.
Oui, je suis assez d'accord sur votre analyse, Emmanuel Davydenkov. En fait, changer d'homme, c'est forcément changer de politique. Donc, c'est certain qu'on part pour quelque chose d'autre. On a eu un penseur de l'école. Et aujourd'hui, les premières images que Benoît Hamon veut donner, c'est j'irai frapper aux salles des profs. Donc, réellement, une présence sur le terrain. Et si l'on écoute tous les interlocuteurs, notamment tous ceux qui ont construit la loi sur l'école, ils disent bien aujourd'hui on a besoin de quelqu'un qui fasse appliquer cette loi. Donc on va être dans une phase numéro 2. Certains osent même dire on va changer. C'est comme si on changeait de quinquennat aujourd'hui en matière d'éducation. Donc pour le contenu, ben, on en saura un petit peu plus après. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les toutes premières déclarations de Benoît Hamon ont été d'une part... Hier, je dément que l'éducation ne soit plus une priorité pour François Hollande. Donc on verra ce qui est dit cet après-midi sur le sujet. La deuxième chose qu'il a déjà donnée hier en avant-goût, c'est que les postes, des postes, étaient nécessaires. Il n'a pas donné le chiffre de 60 000, le nombre de 60 000, mais il a bien insisté d'emblée sur ce sujet. Et puis, sur les rythmes scolaires, je suis tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel Davinenkoff, la marge est vraiment étroite. Si on n'applique pas cette loi aujourd'hui, c'est la preuve que la gauche n'est pas capable de réformer l'école, parce que là, ce serait une vraie marche arrière sur un sujet sur lequel ils ont embarqué beaucoup de gens avec eux. Il y a réellement dans ce pays un camp réformateur qui s'est fait énormément entendre tout le week-end en disant on a besoin de faire pression et on va voir les choses cet après-midi. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus que 2 heures de suspense.
Alors de toute façon, on n'a pas le choix à vous lire, Emmanuel Davidenkoff, parce que si on ne va pas au bout de cette refondation de l'école amorcée par Vincent Peillon et donc nous l'espérons pas seulement laisser en suspens, mais qui va être prolongée sous la forme d'actions concrètes et de mise en œuvre concrète de la politique qu'il a pensée par Benoît Hamon, si on ne va pas au bout maintenant, on ne sera pas prêt à affronter ce que vous appelez très clairement le tsunami numérique et qui va déferler sur nous. Pour l'instant, c'est une petite vague, mais elle est en train de grossir. Elle vient des États-Unis, cette grosse vague. Elle vient d'où ?
Enfin oui, moi je pense qu'elle vient très nettement des États-Unis et même de quelques endroits des États-Unis. Elle ne vient pas de la Nouvelle-Orléans ou de Détroit qui sont sinistrés. Je précise quand même que le système scolaire américain ne me fait pas rêver dans son état actuel. Mais il y a un certain nombre de zones aux États-Unis, et notamment tout l'écosystème qu'il y a autour de la Silicon Valley, mais également autour de Boston, la route 128, Seattle, etc. Où depuis 3-4 ans, vous avez un certain nombre de start-up, de savants, d'universités, de centres de recherche publics et privés, de financeurs qui sont en train de se mobiliser pour réinventer l'éducation. Voilà. Et utiliser notamment la formidable puissance de calcul qu'on peut aujourd'hui mettre dans des machines, et y compris dans des machines qu'on a tous dans nos poches, dans ces fameux téléphones intelligents. Je les appelle en français, les smartphones, dans leur comme on les appelle, et qui peut permettre aujourd'hui d'accompagner les processus d'apprentissage d'une manière absolument inimaginable auparavant. Je crois qu'il y a une dimension qu'on a... Moi, il a fallu que j'aille là-bas pour comprendre ce truc-là, pour le sentir. Je ne suis pas scientifique de formation. Mais le côté exponentiel de la loi de Moore, celle qui dit qu'on double la puissance de calcul des machines tous les 18 mois, en fait, c'est quelque chose d'exponentiel. Et pour comprendre à quel degré de précision, on peut rentrer dans l'accompagnement des apprentissages, je crois qu'il faut vraiment mesurer la rapidité aujourd'hui que la loi de Moore est en train d'apporter.
Qu'est-ce qu'elle charrie, cette vague ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle a en elle ?
Ce qu'on y mettra, et y compris aux États-Unis. Vous avez des personnes qui pensent là-bas que ça va permettre de scolariser, d'aider à la scolarisation justement des enfants de Détroit et de la Nouvelle-Orléans. Alors, ils vous parlent de l'Afrique ou des pays très pauvres, mais enfin, ils ont quand même des gros dossiers localement aux États-Unis, donc avec des offres gratuites, avec des offres auxquelles les enfants pourront facilement accéder, en aidant les enseignants à industrialiser la partie la plus mécanique des enseignements, qui est quand même celle qui est très consommatrice de postes aussi, parce que quand on dit qu'il y a 57 millions d'enfants non scolarisés dans le monde, c'est considérable. Il manque aussi 2 millions d'enseignants pour les scolariser. Alors, si vous trouvez déjà au moins pour certains aspects des apprentissages sur le lire, écrire, compter, tout ce qu'on peut une fois de plus mécaniser, automatiser, si vous vous faites aider par les machines, vous trouvez des réponses. Donc, il y a des gens qui pensent que ça va permettre de résoudre ces problèmes-là. Il y en a d'autres qui s'imaginent, je vous fais juste le jour et la nuit, on va dire, que tout ça va permettre de privatiser totalement l'enseignement supérieur en créant des systèmes de tracking, c'est-à-dire de suivi de vos apprentissages dès le plus jeune âge, qui vont arriver à une sorte de cartographie de vos connaissances, de vos compétences, de vos façons de travailler, d'interagir avec les autres, votre sens de la coopération, de la compétition, etc. Et qu'on va vendre tout ça aux entreprises et qu'elles pourront piocher là-dedans les profils les plus performants. Je vous le fais de manière volontaire,
un peu provocante
et caricaturale, mais vous entendez vraiment les deux. D'un côté, on va sauver l'Afrique et de l'autre côté, on va devenir encore plus riche grâce à...
D'où l'importance de la politique.
C'est pour ça que c'est ce qu'on
y mettra.
Et c'est le sens du bouquin, c'est de dire il faut que ce débat ait lieu, parce que je trouve que pour l'instant il n'a pas lieu. Il faut que ce débat ait lieu pour qu'on sache ce qu'on va faire de tout ça. C'est vrai que dans le « on » que vous mentionniez tout à l'heure, j'allais dire qui est « on » dans cette histoire-là.
Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur la pédagogie, enfin sur l'enseignement proprement dit, avec votre smartphone. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites pour démultiplier, changer la manière d'apprendre ? Vous avez dit que vous avez été aux États-Unis, vous avez vu comment ça s'est passé. Expliquez-nous un petit peu concrètement comment ça peut effectivement modifier la donne.
Concrètement, ce n'est pas le smartphone qui change la donne. C'est ce que le professeur va vous dire de faire avec le smartphone et c'est le sens que le professeur va donner à l'utilisation du smartphone. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas les machines contre les êtres humains. La machine, c'est rien. Moi, je cite une institutrice qui m'avait fait beaucoup rire un jour. Elle me dit, mais arrêtez de parler de tableau blanc interactif. Le tableau blanc, il n'est pas interactif. L'interaction, c'est moi qui la produis. Et elle a parfaitement raison. Et je pense que Marilyn, comme moi, pour être rentrée dans des classes où il y avait des tableaux blancs interactifs, s'est rendu compte que certains servaient vaguement de projecteur à peine amélioré et encore ça tombe plus souvent en panne qu'un projecteur normal, alors que d'autres étaient utilisés au service de pédagogies différentes. Donc ça, c'est un point fondamental. Ensuite, vous avez aujourd'hui des applications qui permettent d'automatiser des choses. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant en 2014 que des gamins trimballent des cartables qui pèsent des kilos et des kilos à trimballer du papier pour cocher des cases. En plus, alors il faudra gommer pour l'année d'après, pour celui qui vient, pour remplir des exercices à trous. Un smartphone fait ça très bien. C'est quand même hallucinant que parfois, on passe du temps dans des écoles élémentaires à faire répéter en chœur aux enfants 2x2, etc. Je ne la connais même pas. Mais voilà, mais ça c'est l'effet. Ça c'est l'effet. Avec mon smartphone, je vais y aller. Alors que le smartphone, il y a des applis qui font ça, qui ne s'énervent pas, qui répètent à l'infini et qui en plus, dans des versions beaucoup plus élaborées que les exemples que je viens de vous prendre là, seront capables de vous dire dans 4 mois, Antoine Caroline, si vous vous êtes trompé dans la résolution de tel problème et au besoin d'un problème complexe, c'est parce qu'en fait, telle pierre, telle brique des apprentissages que vous étiez censé avoir acquise il y a 3 mois, en fait, vous ne l'aviez pas. Et donc, c'est ça qu'il faut résoudre, c'est-à-dire industrialiser l'individualisation de l'apprentissage, ce qu'aucun enseignant qui est un être humain normalement constitué, ne peut faire. Et aujourd'hui, vous avez des réponses à cela qui sont des réponses technologiques. En 97, quand Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, a battu Kasparov, The Economist a écrit « Si votre métier ressemble à celui de joueur d'échecs, changez de métier ». C'est ça qu'il voulait dire derrière. C'est-à-dire qu'on va réussir, et on y est aujourd'hui, à automatiser des processus dont on est sûr, je vois vos airs, hein, vous et moi, enfin surtout visiblement plus vous que moi, que non, il n'y a vraiment qu'un être humain qui peut faire ça dans la vie. Non, aujourd'hui, des machines commencent à pouvoir faire des choses qu'avant, des êtres humains faisaient, y compris d'ailleurs écrire des articles dans les journaux.
Marilyn Baumard.
Alors, justement, sous cet angle et sous le fait que cette révolution numérique, elle n'est pas forcément une révolution pédagogique, en tout cas, elle rebat terriblement les cartes. Est-ce qu'il faut se réjouir ou non de ce concept d'école low cost qui est en train d'émerger et que vous, enfin, c'est vraiment un des thèmes que vous montrez bien dans votre livre.
Emmanuel Davydenkov. D'abord, qu'est-ce que c'est l'école low cost dont vous parlez en effet ?
Alors, l'hypothèse que j'émets dans le livre, c'est que alors c'est plutôt pour l'enseignement supérieur pour l'instant, mais je pense que ça peut redescendre très vite dans le scolaire, notamment au niveau du lycée. Non, si vous industrialisez, si vous automatisez un certain nombre d'apprentissages, notamment tout ce qui est de l'ordre du cours magistral, un certain nombre de vous faites gagner du temps sur la correction de copies, sur le suivi, vous pouvez former plus de gens en dépensant moins d'argent. Si vous pouvez former plus de gens en dépensant moins d'argent, c'est tout simplement, soit vous gardez le même prix et vous gagnez plus d'argent, soit vous décidez d'avoir plus de clients et vous diminuez les prix. Et ça, c'est l'hypothèse que je formule, qui n'est pas aberrante. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans l'enseignement supérieur se développer avec des produits d'entrée de gamme à 5 000 euros, ouais. 6 000 euros. On est loin des 8, 10 000 ou 15 000 que peuvent coûter un HEC ou un Sciences Po. Donc voilà, ça, c'est effectivement une de mes hypothèses. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Moi, le risque que j'y vois, quand on observe, et ça, l'étudiant l'observe de très très près, le comportement d'un certain nombre de familles qui sont très inquiètes de l'avenir de leurs enfants, qui sont inquiètes de les inscrire dans des établissements qui vont permettre de trouver un emploi. Je pense qu'il y a des affaires de seuil psychologique. Si demain, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs sont capables, dès le baccalauréat, de proposer des filières avec des portes de sortie à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, moins chères que ce qu'elles font aujourd'hui et garantissant un emploi, je pense qu'ils vont attaquer tout un marché qui aujourd'hui est un marché qui naturellement va vers des formations publiques, l'université, des BTS, des
DUT, etc. Alors moins cher, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on enlève dans les frais ? On enlève quoi ? Les professeurs ? On enlève les profs.
Clairement.
C'est assez simple, effectivement.
Oui, mais attendez, la première charge salariale...
Très efficace, très économique.
Si vous faites l'économie d'un établissement, c'est une industrie de manœuvre. 95% des salaires de l'éducation nationale, c'est payé les enseignants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'autres marges. Ce n'est pas le matériel. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Donc voilà. Si cela se produit, moi, je pense une fois de plus qu'il faut que ce débat ait lieu parce qu'il y aura une clientèle pour ça. Alors, est-ce que le service public veut devenir, comme dans certains pays, par exemple en Amérique latine, l'endroit qui accueille les très pauvres qui n'ont pas le choix, les très riches En France, on sait très bien le faire, les très riches ne payent pas leurs études. Enfin, sauf ceux qui vont faire une école de commerce, mais les autres ne payent pas. Polytechnique, vous ne payez pas, vous êtes payé. L'ENA, vous ne payez pas, vous êtes payé. Normal Sup, vous ne payez pas, vous êtes payé. Bon, pour arriver à ça, vous avez fait une prépa, de préférence publique, parce qu'à trois exceptions près, ce sont elles qui ont les meilleurs taux de réussite. Donc, quand vous êtes riche, il n'y a pas de souci dans ce pays. Donc, ça, je ne pense pas que ça va bouger. Quand vous êtes très pauvre, malheureusement, c'est difficile de trouver une économie là-dessus. Encore que certains essayent, l'école 42 essaye, la Web Academy essaye. Bon, il y a des tentatives. Mais vous avez tous marché qui représente 70% de la clientèle des bacheliers aujourd'hui, 70% des familles, qui pour le moment choisissent plutôt le privé que l'université si on regarde les tendances. C'est-à-dire sur 10 ans, il y a eu 50% d'étudiants en plus dans le supérieur, 80% ont choisi le privé. Donc la tendance, elle est nettement dans cette direction-là. Donc je dis, les conditions sont réunies pour qu'une offre émerge qui réponde à la demande de ces familles-là. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Voilà.
Mais
en tout cas, moi, non. Si c'est ça la question. Ouais.
On n'a pas l'impression que c'est non.
Mais enfin,
est-ce que c'est la refondation de l'école qui passe avant tout, justement, pour reprendre le terme du gouvernement actuel? Est-ce qu'il faut d'abord changer l'école? Est-ce qu'il faut l'adapter pour accueillir cette révolution numérique? Dans quel sens les choses doivent-elles se faire, selon vous, Emmanuel Davydenkov?
Ce qui me frappe... Je fais une comparaison dans le livre entre l'éducation nationale et Kodak. Kodak, qui fut une des plus grosses entreprises du monde, il y a eu 150 000 salariés à un moment. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 8 000. Elle a déposé le bilan. Finalement, elle a réussi à se tirer d'affaire. Mais bon. Kodak, alors, beaucoup de personnes citent, quand on parle de technologie et d'innovation, l'exemple de l'appareil photo numérique en disant Kodak, ils avaient déposé le brevet en 75 du numérique. Ils n'y ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Bon, quand on regarde dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Ils avaient raté le Polaroid, ils avaient raté la photocopieuse. Le monsieur était parti chez Xerox. Xerox était très content à la fin. Bon. Donc, en fait, ça voulait dire quoi? Qu'on avait affaire à une organisation qui était incapable de se penser différemment. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé un business model extraordinairement rentable. Un de ses anciens PDG avait même dit que son business model était plus rentable, enfin que le seul business model plus rentable, c'était le trafic de stupéfiants. Mais qu'à part ça, vendre des pellicules au prix auquel ils les vendaient par rapport à ce que ça leur coûtait, il n'y avait pas plus rentable. Donc ils n'ont pas voulu attaquer leur business model et penser autrement. Je pense que l'éducation nationale est dans la même situation. C'est-à-dire que des inventeurs de Polaroid, de Xerox, d'appareils numériques existent à l'éducation nationale. Et on n'arrête pas d'ailleurs de lire un certain nombre de témoignages ou de reportages dans Le Monde. Nous, on en publie certains sur EduPro aussi, le Café Pédagogique. En public, le web, enfin, il y en a plein aujourd'hui. Ces énergies et ces imaginations existent. Libérons-les, permettons à ces personnes de leur demander de remplir
numérique.
Des papiers. Je
ne
sais pas si sous cette forme-là, je pense qu'il y a un problème de corps intermédiaire à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité extrême. Quand vous discutez avec des enseignants qui essayent de revivifier les choses, il y a une hétérogénéité extrême entre celui qui vous dira... ils vont tous en fait vous parler soit de leur chef d'établissement, soit de leur inspecteur. Les uns pour vous dire « j'ai du bol », il comprend, il me laisse faire et on peut avancer. L'autre pour dire, il m'a fait remplir des feuilles comme ça, il m'a dit non, ça rentre pas dans telle case du code de l'éducation ou que sais-je, et je n'ai pas pu faire. Ces énergies existent. Moi, et je cite plein d'exemples dans le livre. Et dans le supérieur, les pédagogies différentes sont extrêmement nombreuses. Je veux dire, l'enseignement supérieur, il y a plein de formes pédagogiques différentes.
Mais c'est pour... je vais vous donner la parole tout de suite, Marine Baumard. Mais c'est pour éviter une catastrophe. Vous appelez quand même votre livre le tsunami numérique. Un tsunami, ça ne fait pas que du bien,
non.
Hein, Emmanuel Davydenkov. On le sait. Donc c'est pour éviter une catastrophe ou c'est parce que vous pensez, en ayant visité certaines écoles, en particulier aux États-Unis, que le numérique permet de mieux apprendre et de mieux enseigner? Est-ce que c'est une démarche qui est positive ou est-ce que c'est une démarche qui est de défense de ce qui nous arrive?
Mais le numérique est là. Le numérique est là. Enfin, je pense pas que ce soit le sens de votre question, mais c'est comme si
non,
au moment.
Non, c'est pour ça que je vous laisse continuer.
Non, mais c'est comme si au moment où on invente la vapeur pour propulser les bateaux, on se disait est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien? C'est là, et de toute façon, ça c'est dans nos vies et ça va être de plus en plus dans nos vies. La question est de savoir.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Donc la question, elle est humaine et pédagogique. Elle n'est pas tellement liée au numérique. Je veux dire, une fois de plus, vous pouvez remplacer le mot numérique à beaucoup d'endroits du livre par pédagogique, très très souvent, ou parfois par économique, politique. Voilà, l'enjeu est là. Ce que le numérique change aujourd'hui, ce que changent ces innovations qui nous viennent des États-Unis, une fois de plus, c'est la possible émergence d'autres modèles économiques de formation. À mon avis, dans l'enseignement supérieur, très vite, ils y sont déjà d'ailleurs, hein, probablement dans le scolaire, qui vont venir impacter une promesse qui est une promesse bien différente, qui est la promesse française, à laquelle je suis extrêmement attaché, qui est la promesse de ne pas seulement essayer de former des intelligences, mais aussi d'apprendre à vivre ensemble, de transmettre des valeurs, de former des citoyens, et qui ne peut pas se résoudre à quelque chose de mercantile et à un échange marchand c'est pas j'ai quelque chose à vendre, tu as quelque chose à acheter. L'éducation nationale, c'est pas dans la solitude des champs de coton. Ça doit être quelque chose qui dépasse cela. Simplement, si on le fait, si on veut le faire sans penser la place du numérique et les possibilités qu'offre le numérique là-dedans, je dis simplement, l'éducation nationale va se faire avoir. Ça se fera pas en un an.
Ce que vous avez vu, c'est
ça
un rapport.
Ça se fera pas en un an. Ça va prendre 20 ans. Sauf que ça va très vite. 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On est à échelle.
Un rapport au marchand, enfin un rapport marchand à l'éducation qui utilise les nouvelles technologies. C'est un peu ça que vous avez vu et vous dites attention,
absolument.
Attention. C'est ça. Marine Beaumont.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que quand on va vraiment au bout de la logique qui est dans votre livre, on est en train de vivre un autre bouleversement encore plus important que celui de l'économie de cet enseignement supérieur, mais c'est la place du diplôme. Notre société du diplôme est en train de mourir si on s'arrête vraiment à vos lignes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça ? Et puis, à vos yeux, est-ce que ça va se faire rapidement ou non ?
Dans certains secteurs comme l'informatique, c'est déjà fait.
C'est en bonne voie, disons.
Hein. Voilà, ouais. C'est quasiment fait. Ils regardent aujourd'hui les certificats que vous avez obtenus sans forcément regarder dans quelle école vous avez obtenu, parce que c'est des systèmes de certification. Ce qui va se passer pour les diplômes, c'est effectivement, la Fondation Internet Nouvelle Génération vient de faire un rapport extrêmement intéressant sur l'avenir du numérique. Alors, ils imaginent le curriculum vitae d'un jeune en 2020. Et alors, ça donne ingénieur informatique, 30 crédits, université d'Alma-Ata, sous compétence langage Java, 23 crédits Stanford, option philosophie, 28 crédits, dont 13 Kierkegaard et 3 Kant,
Excusez-moi, de stage, etc. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y aura en plus le temps que vous avez mis pour acquérir ces compétences.
Alors ça, c'est les métadonnées qu'on pourra en retrouver effectivement. Mais vous avez tout à fait raison. Donc il y aura à la fois, on peut imaginer effectivement, demain, qu'au lieu d'aller passer votre diplôme, toutes vos études à un endroit, vous composiez votre diplôme, de la façon que je viens de décrire. Effectivement, si les systèmes par lesquels vous avez passé ces diplômes ont traqué ces informations-là, on pourra accéder à des informations très précises quant à savoir si vous faisiez vos devoirs à la dernière minute ou pas, si vous avez passé du temps à aider les autres, parce qu'il y a beaucoup de systèmes coopératifs dans tout ça, c'est pas forcément de la compétition. La question là, c'est uniquement de savoir comment les entreprises vont marcher. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises vont continuer à vouloir à tout prix faire confiance à des marques, des HEC, des Polytechniques en France, des Harvard ou des Stanford aux États-Unis, ou est-ce qu'elles vont s'ouvrir à ce genre de choses ? Moi, mon hypothèse, c'est que les très grandes enseignes universitaires ancrées dans l'histoire, qui produisent de la recherche de très haute qualité, ont quand même globalement assez peu de soucis à se faire. L'éducation, c'est un paquebot. Les représentations, ça bouge très très lentement. En revanche, sur des offres qui sont moins singulières, moins originales, où au fond tout le monde fait un petit peu la même chose, je pense effectivement qu'il pourrait y avoir des ensembliers. Ceci étant, on a connu ça dans l'histoire en France. Quand vous entriez à Louis le Grand, à la fin du 19e siècle, d'abord vous y entriez dans les grands lycées d'Apollonien, vous y entriez dans toutes les toutes petites classes, et vous alliez y rester inscrit parfois jusqu'à 20, 22, 25 ans, en allant faire vos études, on vous envoyait faire votre droit à la Sorbonne, un bout d'allemand à Heidelberg, etc. Mais c'était Louis le Grand qui continuait à être la colonne vertébrale et qui certifiait que vous aviez bien suivi vos études. Donc au fond, on reviendrait peut-être à ce système-là.
Sauf qu'on n'était pas derrière son écran d'ordinateur. C'est quand même peut-être ça la différence, parce que votre curriculum vitae, c'est garanti sans avoir vu un prof pendant mes études, ou pas.
Mais vous n'êtes pas... la révolution numérique, elle ne vous impose pas
de
rester...
Vous êtes vieux jeu.
Non, mais ça sert d'avoir un prof, c'est les compétences c'est qu'ensuite recruteur...
Ah bah,
dites ça au prof, tiens. Non, mais le recruteur, qu'est-ce qu'il cherche ? Il veut être sûr de vos compétences et du mode d'acquisition.
Emmanuel
Badabinico. Moi, je n'ai pas vu... Il y a quelques modèles, mais sur des trucs très techniques. Mais sur des formations plus généralistes, notamment ce qui se passe à l'université, j'ai entendu personne de sérieux me dire on va arrêter les cours et on va arrêter les êtres humains. Personne. Je veux dire, y compris parmi les personnes les plus proactives en matière d'innovation
personnelle aussi.
Alors ça va, l'hypothèse qui est formulée là-dessus, et à laquelle moi je crois vraiment, c'est que ça va justement renforcer l'exigence du côté des établissements d'offrir quelque chose de fort en termes d'expérience humaine, de rencontre avec les enseignants. Pardon, vous êtes étudiant en premier cycle dans une grosse université, combien de fois vous avez la possibilité dans l'année de passer une heure en tête-à-tête avec un de vos enseignants ? Dans quel bureau ? Il n'en a pas. Bon. Je caricature, en province et dans certaines universités, ça commence à exister. Mais voilà, de renforcer l'expérience, ce qui se produit en matière à la fois de transmission des connaissances, mais également l'expérience associative qu'on peut vous offrir, construire des choses ensemble, l'expérience culturelle, les voyages, etc. C'est là-dessus, demain, que les établissements d'enseignement supérieur feront la différence. Parce que vous pensez bien, tous ces systèmes, ces cours massifs en ligne, les MOOC, etc., c'est inventé par des universitaires. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas envie de tuer l'alma mater. Stanford, ils l'ont dit cash. Hein. Ils ont dit que, vous savez, il faut quand même qu'on continue à convaincre les gens de payer 50 000 dollars par an pour venir chez nous. Donc, il va falloir qu'on mette du contenu. C'est de l'excellence de la recherche. C'est du tutorat, mais pas au sens où l'enseignant abdiquerait de ses connaissances académiques, de son intelligence. C'est du tutorat au sens où, en face à face ou en petit groupe, il est capable d'accompagner quelqu'un qui apprend, comme on le fait quand on prépare un doctorat. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le mot tutorat souvent est assez mal vu, mais au fond, quand on le travail d'un doctorant et de son directeur de thèse, c'est du tutorat. Bon, donc ce n'est pas quelque chose qui est si nul que ça. Le précepteur, c'est une forme de tutorat. Et le lycée, là encore, de la fin du 19e, fonctionnait.
Et ce n'est pas des coachs, modalités. Alors c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais le mot de coach, enfin, d'abord, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des gens qui essaient de labelliser ce que c'est que les coachs. Mais un coach, c'est un entraîneur. Si vous voulez me faire dire que je trouverais bien que les enseignants aient une fonction de motivation et d'entraînement de la majorité des étudiants, oui, je trouverais ça formidable. Je suis pour des enseignants coachs. Mais on ne peut pas coacher dans le vide. Donc, je veux dire, s'ils ne savent plus rien, s'ils ne savent pas transmettre, s'ils n'ont pas la flamme, et surtout s'ils ne savent pas inviter à penser différemment, ça ne marchera pas. Vous savez, on prend souvent l'exemple de les moguls de la Silicon Valley qui inscrivent leurs enfants dans une école où il n'y a pas d'écran avant l'âge de 13 ans. Ça va tout le monde. On oublie de préciser parfois que c'est une école Steiner, donc une pédagogie tout à fait innovante, et que pourquoi il n'y a pas d'écran ? Parce que tout est centré sur la créativité, sur le travail collectif. Voilà. En fait, ils font exactement ce qu'il faut pour que leurs gamins inventent ce qu'eux-mêmes ont inventé. Et il n'y a pas besoin d'écran pour ça. Et à la limite, un jour, on fait rentrer l'écran. L'écran n'est pas une question. C'est une façon de penser qui est beaucoup plus horizontale, qui est beaucoup moins tubulaire. Ce sont des modalités de relations beaucoup plus coopératives entre les gens, beaucoup moins hiérarchisées. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire à l'éducation nationale par où on commence. Mais je pense qu'il y a un vrai nœud sur le fonctionnement des corps intermédiaires, sur les inspections, sur les chefs d'établissement, sur toutes ces personnes qui pilotent le système. Parce que l'énergie sur le terrain, elle existe.
Mais rejoignez l'équipe de Benoît Hamon.
C'est pas mon métier.
Marilyn Baumard.
Je serais bien incapable.
Emmanuel, est-ce qu'on ne peut pas lire ce tsunami numérique comme réellement une possibilité d'offrir de l'excellence au plus grand nombre ?
J'espère. J'espère. Et merci pour la question. Il y a des exemples. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des exceptions qui confirment la règle, qui est que l'excellence, malheureusement, elle ne va pas partout. Mais il y a des exemples, je cite notamment celui d'Amol Bhave, qui est un jeune Indien, qui avait suivi un MOOC sur edX, qui est la plateforme de cours en ligne fondée par Harvard, et avec plutôt des établissements publics, grands établissements américains. Et il n'y avait pas le deuxième épisode du cours, c'était un cours d'informatique. Et donc, il a rencontré des gens sur la communauté, ils ont conçu le deuxième épisode du cours. Il y a à peu près un millier de jeunes qui l'ont suivi. Et quand il a candidaté à Harvard, il a fait valoir cette expérience-là. Harvard a dit « c'est formidable, venez ». Alors, ce n'était pas un Indien. Je cite d'autres exemples, mais qui sont dans les bidonvilles, qui n'ont rien à voir. Lui avait un ordinateur à la maison, il avait des parents qui travaillaient, donc c'était la classe moyenne aisée et éduquée. Néanmoins, avant le numérique, il n'aurait jamais été repéré par Harvard, tout simplement parce que humainement, ça n'aurait pas été possible. Il faudrait qu'Harvard emploie des centaines de milliers de représentants dans le monde entier pour aller détecter des talents comme celui-ci. Donc oui, ça, je pense qu'il y a un atout absolument formidable.
Emmanuel David-Ankoff, il y a quand même une question que je me pose en vous entendant parler depuis le début. C'est que quand on parle souvent de l'école en France, on fait des comparaisons avec les pays scandinaves où on dit « Ah, c'est le modèle économique pendant un temps, puis le modèle scolaire encore aujourd'hui. » Et vous nous dites « La vague qui nous arrive, elle arrive des États-Unis. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir ce qui se passait du côté scandinave de ce point de vue-là ? Et pourquoi ce qui nous arrive ne pourrait pas venir de là et est très différent de ce que vous avez pu voir en Inde, puisque vous avez cité l'Inde aussi, et aux États-Unis ?
Parce qu'il y a une affaire de puissance économique, parce que c'est les États-Unis qui ont inventé Amazon. Il y avait 0,04% des livres qui étaient vendus sur Internet en 98. On est à 17%, on promet 30% pour 2017. Parce qu'aujourd'hui, on charge de la musique sur des... Je suis désolé, j'ai cité une marque, je ne vais peut-être pas en citer d'autres.
Mais enfin, oui, ouais. Ce serait mieux.
Excusez-moi.
Vous savez, hein, vous travaillez aussi à France Info.
Je sais bien, justement. Je me suis mordu les lèvres en le faisant. Donc, je vais essayer de le faire sans citer de marque. Mais nous téléchargeons de la musique sur des plateformes qui ont été également conçues dans la Silicon Valley. C'est quand même une industrie qui a changé nos vies quotidiennes, nos façons de consommer, de communiquer, de nous former de manière absolument considérable. Il y a une puissance d'influence qui est extraordinaire. Par ailleurs, j'aime pas la notion de modèle à l'étranger. Ça marche pas comme ça. L'éducation, elle est le fruit de l'histoire d'un pays, des valeurs qu'il souhaite porter, des valeurs qui se donnent à un moment donné. Et on ne peut pas plaquer le système finlandais sur le système français. Marine Baumard était comme moi au World Innovation Summit for Education à l'automne dernier. Et on a assisté à une présentation amusante de Pacis Albert, qui est un Finlandais, et il avait fait toute sa présentation sur le thème. Imaginez qu'on, voilà, nous la Finlande, on est super bon dans PISA. Imaginez qu'on vous donne nos enseignants demain. Alors, et ensuite il y a une sorte d'opération du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, ils parlent tous la bonne langue. Enfin voilà, on vous les donne, ils sont comme ils sont. Est-ce que ça marche? Non. Parce qu'on n'est pas habitué à apprendre comme ça, que notre système n'est pas structuré pour apprendre de cette façon-là. Et d'ailleurs, s'il suffisait de regarder en Finlande, ça fait belle lurette qu'on aurait réformé, parce que ça fait belle lurette qu'on sait que la Finlande obtient de meilleurs résultats. Donc moi, je ne crois pas à cette notion de modèle. Ce qu'il y a là, simplement, c'est que le privé peut s'en charger. C'est ça la grosse différence. C'est que le privé peut arriver et peut faire pour l'enseignement scolaire ce qu'il a déjà fait pour l'enseignement supérieur en France il y a 40 ans.
Est-ce que le privé ne va pas seulement s'occuper de savoir, de fabriquer, si je puis dire, des étudiants et des jeunes pour aller dans l'entreprise? Est-ce que ça ne sera pas ça le principal souci et rien d'autre?
Je pense que pour les établissements privés qui existent depuis longtemps dans ce pays. En plus, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend, ce qu'on dit par privé, parce qu'il y a le privé, à but strictement mercantile, enfin, il faut associer avec des actionnaires ou des fonds de pension qui sont propriétaires de la chose. Il y a aussi tout le privé consulaire.
Ouais, c'est pas seulement le privé, c'est aussi tout ce que vous nous avez dit sur la manière dont on allait former, non, parce que le curriculum vitae dont vous nous parliez tout à l'heure.
Vous savez, au bout du compte, un établissement d'enseignement supérieur dans le monde tire sa réputation et son attractivité du fait qu'il réussit à vous donner une bonne place dans la société, que ce soit dans les services publics ou dans des entreprises. Donc si, je pense que le privé va continuer à le faire, et je pense que le public serait bien inspiré de continuer à le faire. Et pourquoi les gens se battent pour rentrer Henri IV et Louis le Grand? Parce que ça vous permet d'aller à HEC ou à Polytechnique. Pourquoi les gens se battent pour aller à l'ENA? Parce que ça vous permet de devenir président de la République. Pourquoi les gens... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La réputation, ce qui fait l'attractivité d'un établissement, au bout du bout du bout du bout, c'est qu'il va vous permettre de réaliser un certain nombre de vos projets dans les meilleures conditions, quels que soient ces projets. Et ce projet peut aussi être de devenir boulanger, pâtissier, en devenant meilleur ouvrier de France, ou que sais-je. Vous allez rechercher des établissements qui vous offriront ça. Donc si, je pense que le privé le fera, oui, oui.
Restez avec nous, Emmanuel Davydenkov et Marilyn Baumard, pour écouter la chronique de Raphaël Bourgois. Bonjour Raphaël.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Les idées au quotidien, aujourd'hui, robots dépasser le mythe.
Et oui Caroline, car évoquer le numérique comme on le fait aujourd'hui avec Emmanuel Davydenkov, c'est évidemment poser la question de la dématérialisation. Et si l'avenir était plutôt à la rematérialisation? Et si l'avenir, c'était les robots? La question est posée par le numéro de mars-avril de la revue Futurible, qui propose une réflexion sur l'essor de la robotique. Le point de départ, c'est de dire que les robots sont déjà parmi nous, ce qui soulève évidemment des problématiques technologiques, mais aussi des défis sociaux, éthiques, philosophiques. Futurible fait le pari, plutôt réussi, d'attaquer le problème sur les deux fronts. Entendons-nous bien sur le terme de robot, il ne s'agit pas là de ceux qui peuplent les romans d'Asimov ou de Philip K. Dick, mais de ceux qui interviennent aujourd'hui dans les activités humaines, car les fonctions occupées par les robots sont déjà nombreuses et variées, pour les tâches pénibles, l'assistance domestique à la personne, soigner, augmenter des capacités. À terme, il pourrait même transformer, voire remplacer totalement les êtres humains. Et là, évidemment, on voit apparaître l'ombre des Replicants de Blade Runner. Or, Pierre-Yves Houdeyer, qui signe l'article sur les grands défis à venir de la robotique, l'affirme: accepter les robots, c'est d'abord sortir de cet imaginaire anxiogène. Avant d'approfondir sur Futurible, je voulais tout de même signaler un très bon numéro de Gradiva, la revue d'anthropologie publiée par le Quai Branly, qui s'était penché déjà en janvier 2012 sur ces robots étrangement humains. Approcher les robots par l'anthropologie, c'est déjà aller placer ces créatures artificielles dans un système culturel et des problématiques d'interaction, celles qui nous intéressent ici. Le terme de robot est en définitive très flou. Quoi de commun entre le robot aspirateur, le robot chirurgien, l'exosquelette pour aider au travail pénible ou le robot de compagnie pour pallier la solitude des personnes âgées? Eh bien, tout simplement le fait qu'il s'agit là de robots qui existent, qui interagissent au quotidien, sorte d'avant-garde d'un futur inexorablement robotisé. Revenons à l'article de Pierre-Yves Houdeyer dans Futurible. Le chercheur alerte sur le décalage important qui existe aujourd'hui entre l'imaginaire et l'état de la réalité technologique sur laquelle travaillent chercheurs et industriels. On parle aujourd'hui de robots qui sont très démunis face à la complexité et la variabilité des environnements domestiques. Pour le dire simplement, les robots ne peuvent survivre dans nos salons. Ce décalage pose un problème car on se focalise sur des questions éthiques qui se poseront peut-être dans quelques centaines d'années, mais on ne se demande pas quels usages on est prêt à faire de ces robots qui existent. Aujourd'hui, Ils sont pensés pour remplacer les hommes dans les tâches répétitives et pénibles. Mais l'apparition de robots infirmiers, par exemple, en Corée du Sud ou au Japon, montre que les limites de ce qu'on appelle un travail répétitif et pénible restent à discuter. Il faut en définitive penser la robotique non comme un remplacement, mais plutôt comme une assistance. Mettre la société au centre, c'est éviter de se faire imposer des usages par la dynamique scientifique, industrielle ou économique.
Une chronique plus liée à l'actualité artistique, puisque démarre aujourd'hui à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris une exposition intitulée « L'art robotique », que liée à ce livre d'Emmanuel Davydenkov, puisque vous nous avez bien expliqué que l'idée, ce n'est pas de remplacer les professeurs par les robots. Donc effectivement, il ne faut pas se tromper. Il ne faut absolument pas se tromper. Merci beaucoup, Emmanuel Davydenkov.
Merci à vous.
Le tsunami numérique, puisque vous n'allez pas vous-même rejoindre l'équipe de Benoît Hamon, eh bien, il faudra leur envoyer votre livre. Je précise que demain à 15h dans Rue des Écoles, Louise Touré reçoit Philippe Mérieux qui vient de publier un manifeste collectif intitulé « Le plaisir d'apprendre » aux éditions Autrement. Elle se demandera si le plaisir doit faire partie du programme. Tout un programme là aussi. Merci beaucoup Marilyn Baumard. Merci à Kevin Lebars qui était aujourd'hui à la technique. Toutes les infos de la bibliographie sur notre page La Grande Table sur le site de France Culture. Bienvenue à Tiffaine Malfette qui rejoint l'équipe pour 3 mois de stage.